affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons accomplir un bien curieux voyage, un voyage au centre de nous-mêmes, au cœur même de ce qui fait que nous sommes des êtres pensants, du moins c'est ce que notre invité Jean-Didier Vincent va nous expliquer. Nous allons en effet accomplir un voyage au centre du cerveau, en profitant de la publication de son très intéressant et édifiant livre « Le cerveau expliqué à mon petit-fils ». Je précise d'ailleurs d'emblée que ce livre titré « Le cerveau expliqué à mon petit-fils » devrait être mis entre toutes les mains, y compris dans celle des adultes, car le cerveau qui a longtemps été une terra incognita commence maintenant à être exploré, et pour être aujourd'hui un esprit accompli au fait des dernières découvertes scientifiques de son temps, il est nécessaire, certainement, aussi pour ne pas être l'objet des éventuelles manipulations qui peuvent découler de ces sciences, et aussi découvrir les merveilleuses applications qui peuvent en découler, aussi bien en plan individuel, médicinal que social, il est nécessaire de comprendre cet organe bien singulier qui occupe le sommet de notre morphologie, qui nous dirige, que nous maîtrisons ou pas à voir. C'est ce que nous allons découvrir avec Jean-Didier Vincent. Jean-Didier Vincent, bonjour.
Bonjour.
Jean-Didier Vincent, vous êtes professeur de physiologie à la faculté de médecine de l'université Paris 11. Vous êtes membre de l'Institut, de l'Académie des sciences, bien entendu, mais oui, également de l'Académie de médecine. Mm-hmm. Et vous venez donc de publier cet ouvrage, Le cerveau expliqué à mon petit-fils. Pour commencer, je voudrais que nous fassions un retour. La genèse de ce livre est une conversation avec votre petit-fils, ça nous nous en doutions, mais je voudrais que vous nous parliez des débuts de votre passion et de votre vocation, puisque vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du cerveau et vous avez consacré une grande partie de votre vie à donc explorer cette terre inconnue.
Eh bien, écoutez, ça vient de très loin, il y a véritablement une histoire. Quand j'étais petit, c'est-à-dire j'étais dans un collège protestant, il y en a très peu en France, qui est situé sur les bords de la Dordogne, de l'autre côté de Sainte-Foy-la-Grande, qui était considérée autrefois comme la petite Genève, c'est-à-dire un fief protestant qui avait derrière elle, ou derrière lui, deux siècles de désert, avec une église du désert, dans les caches, dans les choses comme ça.
Comme dans les Cévennes.
Et un peu comme dans les Cévennes, c'est pareil, ça se ressemble. Ce sont les calvinistes, et ils sont la tête dure, et ils sont résistants dans l'âme, ce qui fait que pendant la guerre, il y a eu, mon père en était un des héros, une résistance très forte dans le maquis de Dordogne, et ces protestants irréductibles m'avaient bien accepté parmi eux, et j'ai fait 6 ans de bonheur philosophique, d'apprentissage de la liberté, de la raison, du libre arbitre, ou plutôt du libre raisonnement, qui me permet de devenir des hommes conscients de ce qu'ils sont, ou essayant d'être conscients de ce qu'ils sont, des hommes vertueux. Alors, tous les ans, comme j'avais une langue bien pendue, pour la fête du collège, nous défilions dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande, avec quelquefois des slogans vengeurs à l'égard du pasteur, d'un des pasteurs de Sainte-Foy-la-Grande, mais moi j'avais l'occasion de faire un discours sur le socle de la statue de Broca. Alors, probablement, Broca est un des grands fondateurs des neurosciences, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de la neurologie. C'est lui qui a découvert les localisations à l'intérieur du cerveau, ce qui était un grand débat de l'époque, on y reviendra sûrement. Et donc, cette présence vivante de Broca en moi a été sûrement très importante pour ma vocation. Il y avait d'ailleurs, Sainte-Foy était une ville neurologique, puisqu'il y avait aussi un catholique qui a dû s'exiler parce que son père était médecin et n'avait pas de pratique, étant donné sa religion. Et ce Graciolet est celui qui a décrit les circonvolutions cérébrales à Paris, et il était plus jeune que Roca, qui très charitablement l'a aidé pour son internat et lui a donné. Eh bien, ils étaient opposés car Gratiolet ne croyait pas aux localisations dans le cerveau. Voilà. Alors, c'est l'origine de ma vocation, c'est sûr. Et après, j'ai toujours eu cet esprit rationnel que donnent les protestants. Et j'ai écrit un livre sur Élisée Reclus, qui est aussi une des gloires, et qui était le voisin de ma famille. Les frères Reclus étaient cinq. Il y avait six sœurs vivantes, etc., qui sont parties après. Ils sont partis dans le Béarn, mais ils ont gardé une implantation à Sainte-Foy, qui était leur capitale. Et là, j'ai découvert une autre forme de la liberté chez un ancien pasteur, ou plutôt qui avait renoncé à être pasteur, les deux frères Reclus, notamment, et qui étaient totalement athées et anarchistes. C'est pratiquement Élisée Reclus, le deuxième des Reclus, et un des trois fondateurs de l'anarchie internationale qui comprenait Bakounine et Kropotkine, qui étaient ses pères. Alors vous voyez, ça me donne chez moi une part de liberté ou de libertaire qui est assez importante, bien qu'elle soit d'origine religieuse. Voilà pour mon passé. Mon passé, je dirais, en tant qu'individu, aujourd'hui définitivement revenu et de la politique, et peut-être de l'engagement religieux.
Je vous ai demandé de parler de votre parcours personnel et aussitôt jaillissent quelques jalons de l'histoire, de la découverte
bien
du
sûr.
Cerveau.
Bien sûr.
Donc, que vous avez pris en route, bien entendu.
Oui, bien sûr. Non, mais le cerveau était tout à fait une terra incognita, vous l'avez dit tout à l'heure. Pendant, jusqu'au début du XVIIIe siècle, on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur du cerveau. Et même les Égyptiens qui faisaient des momifications, qui avaient donc une certaine culture anatomique, ne savaient rien de ce qui se passait à l'intérieur du cerveau. On se contentait de vider ou de faire des trépanations, mais on ne regardait pas, on ne comprenait pas ce qu'était le cerveau. Après, il y a eu les grands médecins grecs, et plutôt grecs, gréco-latins, comme Galien, qui ont essayé de penser que c'était dans le cerveau que c'est chez l'âme. Il y avait comment mourir, c'est-à-dire comment perdre son âme, c'est soit de recevoir un coup de poignard, donc une lésion définitive du cœur, soit qu'on vous coupe la tête. C'est les deux façons. Ce qui fait qu'il y avait des tenants du cerveau, c'était les encéphalocentriques, et des tenants du cœur, c'était les cardiocentriques, qui prétendaient que c'était là, soit dans le cerveau, soit dans le cœur, qu'était localisée l'âme. Mais évidemment, ça a beaucoup évolué.
Alors ensuite, quelles sont les étapes majeures de cette découverte du
cerveau ? Alors, pendant longtemps, on s'est attaché dans le cerveau aux vésicules, c'est-à-dire aux trous qu'il y a dans
aux
cavités. Il y avait les trois cavités qui étaient les ventricules 1, 2, 3, qui se succédaient avec des canaux de communication. Il y en avait qui étaient pour la mémoire, d'autres pour je ne sais plus quoi, pour les humeurs, et puis l'autre pour la conscience. Vous voyez, c'était tout à fait arbitraire. Et puis ensuite, on a prétendu qu'il y avait là des esprits animaux qui pouvaient circuler. C'est ce qu'a prétendu Descartes.
Alors expliquez-nous ce que sont ces fameux esprits animaux.
On ne savait pas, on ne savait rien. On ne savait rien du tout.
Et quand on les nomme comme ça, qu'est-ce qu'on
dit ? C'est eux qui animent le cerveau. C'est ceux qui seraient le support de l'âme. Pour Descartes, qui a été le grand révolutionnaire, puisqu'il a permis de se débarrasser de l'âme, je veux dire, pour faire de la biologie. Hein, c'est un meuble encombrant. Alors il a permis d'accrocher l'âme à une structure qui devait être centrale, donc unilatérale, à la place du troisième œil, l'ancien troisième œil des reptiles, c'est-à-dire l'épiphyse, qui était au sommet du cerveau, qui était une glande, où venait se poser en quelque sorte, ou s'accrocher, comme on accroche un chapeau et une patère, l'âme, donc dans toute sa singularité. Et évidemment, on est revenu là-dessus et on a d'autres opinions sur l'âme, malgré ce qu'en a dit Descartes. Alors, comment ça se passe dans ce cerveau ? Qu'est-ce qui permet ce cerveau de remplir sa fonction, justement, et donner l'esprit au cerveau. Parce que ce cerveau, on sait aujourd'hui qu'il y a peut-être 70 à 80 milliards de neurones qui sont là. Il y en a plus que d'étoiles dans notre groupe de planètes, dans notre Voie lactée. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est probablement un des objets les plus complexes de l'univers. C'est même l'objet le plus complexe de l'univers. Il faut savoir qu'il y a sur ces... Je passe du coq à l'âne, mais enfin, il faut savoir que sur ces cellules nerveuses qui constituent le cerveau, il y a des communications qui se font pour créer des réseaux. Et par neurone, il y a à peu près 1000, on appelle ça des synapses, 1000 contacts. Est-ce que vous imaginez la complexité des réseaux qui se forment dans le cerveau avec 1000 sur 1 milliard, sur 100 milliards, etc. C'est abyssal et ça ne laisse pas de surprendre.
Oui, plus on découvre le cerveau, plus on est confronté à l'abîme.
On est confronté à l'abîme et à la complexité. Donc, il va falloir se débrouiller avec ça. D'abord, la première idée, c'est que le cerveau fonctionne à l'électricité. Ça a été la première grande découverte.
Bon, ça, c'est très récent, c'est les années 30, si je me souviens.
C'est les années... Non, l'électricité, c'est le début du 19e siècle, la fin du 18e siècle. C'est le travail de Galvani et de Volta. C'est une querelle extraordinaire, parce qu'on s'est rendu compte que c'est Galvani qui a fait cette expérience. Galvani, c'est un nom qui sonne à vos oreilles, si vous avez fait des études de physique. Il a accroché par un crochet métallique à un balcon de sa maison une patte de grenouille avec le nerf sciatique. Et il a vu que le patte de grenouille se contractait. Alors il a dit, mais c'est très simple, il y a une excitation. On connaissait l'excitabilité, mais on ne savait pas que c'était de l'électricité. Mais c'est simplement de l'électricité qui passe et qui provoque une réponse de la patte de la grenouille. Et alors, à ce moment-là, il y a son adversaire, l'autre grand biologiste de l'époque, qui s'appelait Volta, qui dit mais non, c'est pas du tout, ça fabrique pas du tout de l'électricité, c'est simplement parce qu'on a mis une matière qui est le nerf en contact avec un autre métal, qui est le cuivre du balcon, qu'il y a ce que j'ai appelé une pile. Voilà, alors vous avez entendu parler de la pile de Volta, qui a inventé la notion, et bien sûr, qui est en même temps l'inventeur de la pile voltaïque et du volt, d'une manière générale. Alors l'un est l'inventeur du volt, et l'autre va donner son nom au courant galvanique, c'est-à-dire c'est l'intensité et non plus la différence de potentiel. Alors, donc, Volta avait raison. Volta, c'était un sénateur de l'Empire, c'était un homme ambitieux, mais toute cette ambition et cette arrogance ne l'ont pas empêché d'avoir raison. Mais, en même temps,
Galvani était juste.
Il a fallu attendre qu'on invente ce qu'on a appelé un galvanomètre à fil, qui était une mesure de la différence de potentiel, plutôt du passage d'un courant, qui était appelé courant galvanique, autrement dit un courant continu. Et alors, on prend un nerf, on fait une lésion, et on introduit une électrode à l'intérieur du nerf, et on voit qu'il y a un courant qui passe entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire un courant qui est un courant continu, qui est lié au passage des ions, c'est-à-dire des particules chargées, à partir de molécules qui sont le sodium, le potassium et le chlore principalement, qui vont provoquer ces variations du potentiel, qui donnent un potentiel d'action, qui lui se propage avec une vitesse de l'ordre du mètre par la seconde, et qui n'a rien à voir avec l'excitabilité électrique du courant, donc qui, lui, est à la vitesse proche de la vitesse de la lumière, qui est la vitesse de propagation, non pas de ce qu'on a appelé l'influx, qui, lui, est un courant par propagation locale et le long de ce prolongement, alors qu'il y a une excitabilité par des courants qui, eux, se propagent à la vitesse de l'électricité. Il y a deux types de courants. Les courants de potentiel et les courants électriques. Vous voyez, c'est assez complexe, mais fini. On peut dire qu'une membrane de neurones, c'est une capacité. Je fais un peu d'électricité en parallèle avec une résistance. Et puis ça donne les propriétés électriques de la cellule nerveuse.
Mais à l'époque de Galvani, on en est quand même, pour matérialiser les choses, à pendre une cuisse de grenouille à une rampe.
Oui, c'est Helmholtz qui va mesurer la vitesse de l'influx.
Mais quid du cerveau dans tout ça, parce que,
Le cerveau, il faut le fabriquer. Alors il faut le fabriquer mentalement, il faut voir ce qu'il est exactement, comment il est organisé. Alors tout ça serait incompréhensible si en même temps, on ne s'était pas mis à couper en tranches le cerveau, et notamment à la Salpêtrière, où quand les gens avaient des maladies du cerveau, on a commencé à chercher, à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce cerveau qui n'allait pas. Donc on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui une banque du cerveau, on a gardé des cerveaux, et quand le sujet mourait, on coupait son cerveau pour voir où ça clochait. Oui. C'était la méthode de neuroanatomie qui a été le départ de la grande poussée des sciences du cerveau. Alors, évidemment, il y avait déjà l'idée que les fonctions, les facultés, comme on dit, étaient localisées quelque part sur le cortex cérébral. C'est Gall qui avait ça. Ça s'appelait la phrénologie, c'est-à-dire la science de l'esprit. On voyait sur les bosses du cerveau ce qui se passait dessous et on pouvait faire comme ça une carte des facultés.
D'où la fameuse bosse des maths.
La bosse des maths, la croyance, l'orgueil, tout était localisé là-dessus. Vous avez peut-être vu dans les greniers de vos parents un buste de phrénologie où vous voyez un cerveau en plâtre où il y a marqué dessus l'âme, le besoin, la jalousie, etc. Tout était la concupiscence, etc. Là, avec Broca, justement, on va toucher du doigt la localisation, véritablement la localisation des troubles que l'on observe chez les malades, et donc la localisation des facultés dans le cerveau. Alors, ça se passe aux alentours des années 70, donc de la guerre de 70, du siège de Paris, qu'est-ce qu'on observe? Un monsieur qui s'appelle Tam Tam ou qui est surnommé Tam Tam, enfin il s'appelle Le Borgne. Et le fameux Le Borgne, on l'appelle Tam Tam parce qu'il a perdu la parole et qui dit, quand on lui pose des questions, il comprend tout. Mais il répond Tam 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 Tam. Alors on l'appelle Tam Tam. Puis un jour Tam Tam meurt. Alors évidemment, Broca se précipite sur son cerveau. Il était anthropologue, il avait beaucoup travaillé. Il avait acheté par exemple 300 crânes de basque, il avait acheté un cimetière pour faire de l'anthropologie, pour différencier les formes du cerveau, pour savoir s'il y avait une origine du cerveau, de l'homme, ou plusieurs origines de l'homme, avec les brachycéphales, les dolichocéphales, etc. Il était extrêmement raciste déjà à l'époque, mais raciste, c'était pas un péché. Donc,
oui, parce que l'époque, on classifiait sans cesse.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il voit? C'est que le Nové de Borgne avait une grosse une grosse lésion au pied de ce qu'on appelle la frontale ascendante. Alors c'est difficile d'imaginer le cerveau, mais ce cerveau, il y a des scissures, des sillons, des circonvolutions que Gratiolet a décelé, parce que jusque-là, on pensait que c'était comme l'intestin, quand il est ouvert, ça n'a pas de sens, ces circonvolutions qu'on voit quand on ouvre l'abdomen. Mais c'est en réalité, il s'est rendu compte qu'il y avait au pied de la frontale ascendante, c'est-à-dire la région, l'air cérébral qui est en avant de la scissure médiane, qu'on appelle encore la scissure de Rolando. Excusez-moi, c'est un peu rapide, mais c'est truc. Mais on est obligé d'imaginer ce qui se passe. Il y a là
nous
une lésion.
Nous explorons.
Alors, nous sommes là, nous sommes là où il y a une lésion et qui se traduit par le fait que Tam Tam ne parlait plus. Voilà. Donc, on a dit, nous avons mis. Alors, c'était à gauche en plus. Nous avons mis dans le cerveau gauche la présence du langage, donc le langage est latéralisé, il est à gauche et pas à droite, et en plus, il est dans une région antérieure, sous ce qu'on appelle le cortex préfrontal, et c'est là, c'est avec ça, avec cette région qu'on parle. Donc, on est sur la localisation de ce qu'on va appeler qui donnera lieu, quand elle se sera lésée, à une aphasie motrice, c'est-à-dire la motricité du langage qui met en jeu les lèvres, le larynx et tous ces organes qui se contractent et qui sont responsables de la production de la voix et ensuite de la production de mots et de phrases.
Oui, car le point crucial en l'espèce, c'est que le fameux tam-tam comprend.
Mais ne peut plus s'exprimer, il a perdu la motricité. Alors, ça a été simplifié, on est revenu là-dessus, mais enfin, c'est vrai que le côté moteur du langage se passe là, dans cette frontale ascendante, dans ce pied de la frontale ascendante. On se rendra compte plus tard, et c'est pour contrarier un petit peu Broca, ses travaux, c'est Wernicke, qui est un Allemand, qui va montrer... Dans la région pariétale, c'est-à-dire qui est en vis-à-vis à travers la région temporale et pariétale, donc la région presque postérieure du cerveau droit, qui permet non plus de parler, d'articuler, mais qui permet de comprendre, d'entendre, en fin de compte, ce qui est dit. Alors vous voyez, ça fait un arc en plus qui est sollicité, qui relie la zone de Wernicke et la zone de Broca. La zone de Broca parle et la zone de Wernicke comprend. Vous ne pouvez parler vraiment bien que si vous comprenez ce que vous dites. Donc il y a des aphasies qui sont des aphasies de compréhension par lésion de la région de Wernicke. Et puis après, c'est devenu plus compliqué. On peut parler aussi avec la droite, avec l'hémisphère droite, on se rend compte quand l'hémisphère gauche est détruite, enfin, etc. C'est compliqué. Un cerveau, ce n'est pas figé. C'est ce qu'on appelle plastique. C'est-à-dire, on a rencontré, il y avait le cas d'une jeune femme au Canada. Elle allait très bien jusqu'au jour où on lui a fait un électroencéphalogramme. Pour je ne sais quelle raison, on s'en rendait compte qu'elle n'avait qu'un hémisphère droit. Elle n'avait pas d'hémisphère gauche. Le cerveau était vide. Elle était normale. Donc elle avait tout cumulé sur ce cerveau, cet hémisphère qui lui restait. Ce qui prouve qu'il y a une grande plasticité. Et quand il y a des lésions à la naissance, ils peuvent être remplacés, justement, parce que la partie qui manque va être remplacée par...
De nouvelles connexions
qui se mettent en place. Le cerveau est plastique, et c'est les travaux de mon élève Pierre-Marie Liédot qui a montré que, contrairement au dogme qui disait on a les neurones que l'on mérite, ou enfin les neurones après la naissance, on garde son potentiel de neurones, le nombre ne fait que croître momentanément le temps de mettre les grandes facultés en place, mais après, on ne fait que perdre des neurones, les neurones différenciés ne se divisent pas. Non, on ne fabrique plus de neurones. C'était une erreur. On est ce qu'on appelle une neurogénèse chez l'adulte et on en fabrique dans le bulbe olfactif, c'est-à-dire la partie antérieure du cerveau. On en fabrique encore dans une région qui est la région de la mémoire qui s'appelle l'hippocampe. Et là, on fait quelquefois plus de 100 000 neurones par jour. Alors rassurez-vous, vous voyez, vous êtes en train à l'instant même de fabriquer des neurones. Donc ça, c'est la plasticité qui fait que le cerveau va suivre, s'adapter à l'environnement et évoluer.
Perpétuel devenir.
Perpétuel devenir. Ça, c'est une conquête récente de la neurobiologie.
Alors pour revenir quand même à ce localisme qui, malgré tout, n'est pas infirmé par ces nouvelles découvertes,
c'est-à-dire non, bien sûr que non.
C'est complété, mais pas infirmé.
C'est un acquis, là, maintenant.
Quelles sont les grandes zones et comment ce cerveau se spécialise-t-il pour dresser la cartographie
de
ce territoire.
D'abord, pourquoi le cerveau est-il comme ça? Parce qu'il fait... Il y a toutes les fonctions qui sont localisées dans une partie superficielle qu'on appelle le cortex. C'est comme la peau d'une écorce, on peut le comparer, d'une orange. Donc c'est l'écorce cérébrale qui est faite de cellules nerveuses qui sont interconnectées entre elles. C'est assez complexe. Mais disons que toutes ces régions sont construites du rassemblement de neurones qui s'organisent en colonnes. Enfin, il y a toute une organisation qu'on a découvert, surtout après les histoires de localisation. Et c'est à la fin du 19e siècle qu'on va savoir comment est fait le cerveau avec ces neurones. qui s'articulent. On va découvrir la synapse, etc., etc., c'est-à-dire la communication entre neurones, les réseaux de neurones, et puis les localisations des différentes aires à qui on va donner des numéros, l'aire 6 ou l'aire 4. L'aire 6 est une aire où arrivent les informations sensorielles derrière le sillon médian de Rolando. Et puis, il y a devant les zones de la motricité. Alors là, ça va être très important parce que plus tard, on va se rendre compte que sont représentés les différents territoires de la moitié contralatérale du corps. Alors sur le cerveau gauche, vous avez ce qu'on appelle un homoncule, c'est-à-dire un petit homme, la représentation de ce demi-petit homme qui regarde en arrière ce qui se passe dans la deuxième partie du cerveau de l'autre côté du sillon. Alors, il est particulier, cet homoncule, c'est-à-dire qu'il a d'énormes lèvres. Tout ce qui sert à parler, à gauche, est extrêmement développé. Les lèvres sont développées, la langue est développée. Il a un pouce qui est très développé parce qu'il s'en sert pour parler avec les mains, il s'en sert pour être habile avec ses mains. Alors, il a comme ça des grandes mains, et une grande bouche, puis des membres supérieurs, et puis ça repose sur le long du cortex, et puis ça, les pieds tombent sur la face interne de l'hémisphère. Vous savez, l'hémisphère, il y en a deux, un gauche, un droit, et entre les deux, il y a un vide. Et c'est donc vous avez ce demi bonhomme, ce demi homoncule qui a été montré notamment par un monsieur qui s'appelle j'allais vous le dire, Penfield, qui avait des électrodes qu'il a promenées quand il faisait de la chirurgie pour l'épilepsie. Il commençait à y avoir des neurochirurgiens qui exploraient le cerveau avec des électrodes. Et on voyait qu'il y avait des régions où ça provoquait des contractions des lèvres, de la bouche, etc. Ça ne parlait pas, parce que pour que ça parle, il faut qu'on stimule plus bas. Enfin, c'est plus compliqué. On y reviendra peut-être, vous voulez, sur ce qu'on appelle les neurones miroirs, les régions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi ce cerveau, il est plissé. C'est que si vous faites la surface lisse de ce cortex, vous allez tomber sur 50 cm². En réalité, ça fait presque 2 mètres carrés, parce que pour faire rentrer tout ce cortex dans le cerveau, il faut forcément le plier, le plisser. Ça, c'est les sillons qui vont développer la surface. Donc les électrodes, il faut les regarder à l'intérieur. Alors derrière la scissure frontale, vous allez avoir tous les aires sensorielles, du tact, des différentes formes de sensibilité tactile, etc., etc. Et ça va s'organiser. D'abord, il y aura aussi un homoncule sensoriel. Il va, lui, être à regarder vers l'avant, alors que l'autre, c'est les deux homoncules se regardent en chien de faïence, si je puis dire. Et puis derrière, il y aura après ce qu'on appelle des cellules qui rentrent dans le cadre de propriétés associatives, c'est-à-dire ça va communiquer avec ce qui est devant, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Alors c'est important, le cortex préfrontal lui-même, le cortex préfrontal est très important parce que c'est 500 à 600 grammes de cerveau qui est représenté par ce cortex, alors que le singe ou l'homo erectus en a à peine 100 grammes. Voyez, donc c'est là que l'homme supérieur, celui qui pense, celui qui va s'exprimer, qui va avoir des relations avec l'autre, etc., tout ça, c'est le cortex préfrontal.
Alors justement, différenciation, c'est l'un des points probablement clé aujourd'hui, car il y a tout un mouvement qui tend peut-être, par goût du sensationnalisme médiatique, à vouloir réduire la distance entre l'homme et nos
singes.
Et le singe, voilà, en tout cas, un certain type de singe. Qu'en pensez-vous ?
Évidemment, il y a ce qu'on appelle l'évolution des espèces, et l'espèce... L'espèce de ce qu'on appelle les hominidés, les hominines, qui deviendront des hominines, c'est un ordre qui est chez les singes supérieurs, les singes qui sont des ancêtres plus ou moins directs de l'homme. Alors ça On peut dire que les premiers, c'est les pithèques, les australopithèques, c'est-à-dire les singes du sud de l'Afrique. C'est là qu'on va trouver des singes dont on peut penser qu'ils sont les précurseurs de Homo.
Oui, mais est-ce que ceux-ci sont à un point antérieur d'une même ligne ou constituent une autre branche ?
Il y a des branches, c'est toute la systématique. Vous avez un premier nœud. Alors, il y a plusieurs, il y a cladistique, l'évolution est reconstituée de façon diverse. Je ne peux pas vous expliquer ça, c'est un peu trop compliqué. Mais disons qu'au départ, il y a un primate qui est un ancêtre commun. C'est un singe. C'est, disons, 7 millions d'années, quoi, je veux dire, c'est par là. Et puis, ça va être l'évolution. Cet ancêtre commun va, lui, justement, bifurquer. Il y en a un qui va se différencier de son côté et un autre qui va continuer l'aventure, mais qui ne sera plus le même, qui va évoluer autrement. Alors, après, on va voir apparaître les anthropoïdes qui vont être déjà des ancêtres. C'est pas des homos encore, c'est des australopithèques. Ils vont être, il y a la fameuse Lucie qui est un australopithèque qui est 3 millions d'années. Alors elle commence à se servir de ses pieds, elle est quadrumane, elle est à la fois, elle peut grimper dans les arbres, mais en même temps, elle peut marcher, donc elle a quatre mains. Il y a on va voir les gibbons, qui sont des ancêtres directs, qui vont dévier à partir d'un certain moment, qui auront un ancêtre commun avec les orangs, mais ils vont, eux, être extraordinairement développés. Déjà, ils sont petits, ils ont à peine, un mètre de haut, quelquefois moindre, mais ils sont extrêmement intelligents, et eux, alors, se servent de leurs membres inférieurs et de leurs membres supérieurs pour être des promeneurs du ciel absolument extraordinaires. Mais de temps en temps, ils peuvent se poser à terre. Mais ils sont aériens, ils font du trapèze volant, disons. Et ils sont extrêmement intelligents. Par exemple, ce qui est rare chez les singes, ils sont monogames. Et donc, c'est vrai que le jeune gibbon prend épouse, et ils font l'acquisition d'une propriété de 30 hectares, et là, ils vont monter la garde autour de cette propriété, ils ne laissent pas les autres entrer, ils font des enfants. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont un chant, le chant de Sialin ou du gibbon est mélodieux, il est musical, il chante sur plusieurs registres. Il faut imaginer ça. J'ai un ami qui s'appelle M. Depute, qui est un grand, grand primatologue, imite parfaitement le gibbon. Il fait même plusieurs voix parce que le matin, il se lève, il va aux limites de sa propriété, il se met à chanter face au soleil qui se lève. C'est très beau, et puis la femelle vient le rejoindre et ils font un duo. Oh, c'est d'une musicalité absolument extraordinaire. C'est quelque chose dans la nature qu'on retrouve que chez les baleines, quelquefois c'est les grands dauphins, mais ils chantent. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Non, ce n'est pas le jour. C'est encore le rossignol. Non, ce n'est pas l'alouette. C'est le rossignol qui chante. C'est les paroles de Roméo et Juliette, vous savez. Donc, ils ne parlent pas Shakespeare, mais l'intention y est. Ils sont très contents d'être là. Et ils fondent une très belle famille où ils s'élèvent. Puis, quand les enfants sont un peu grands, ils vont vivre leur vie et puis fonder une famille et essayer de trouver une propriété de libre dans le coin. Ils pourront se nourrir de fruits et de légumes, non, de fruits. Mais c'est des végétariens. Alors après, si je fais ce parcours, nous allons avoir justement l'ourang-outan, qui est une branche, là encore, dérivé de l'axe principal qui va aboutir à l'homo. Et Laurent Autan est un hominidé, c'est un hominidé qui est très, très développé. Laurent Autan, je vous rappelle, si vous êtes allé au Jardin des Plantes, il y avait une célèbre orang-outan, Nénette, dont je raconte la vie dans un de mes livres, qui était une grande dame. Mais les orang-outans, en général, font l'amour en passant. Il y a un beau mâle qui passe, il engrosse la femelle et puis il s'en va, il s'en fiche. Mais il s'est passé, peut-être c'était lié à la captivité, que Nénette est tombée amoureuse d'un mâle qui lui a fait un enfant, puis malheureusement, c'était l'amour, parce que les mâles ne s'intéressent pas aux enfants. Et il est mort des mains d'un chirurgien pour une intervention bénigne, et ça a été terrible, ça a été un grand chagrin, elle ne s'en est jamais remise, et après, elle a vécu en dame, elle est morte là, elle avait 40 ans et quelques, on a fait un film sur elle. Moi, j'y allais avec ma dernière fille, qui était toute jeune à l'époque, qui a sympathisé. Et je crois bien, quand je suis revenu la voir plus tard, quand j'ai écrit ce livre sur la biologie du couple, je crois bien qu'elle l'a reconnue. Enfin, elle avait une mémoire remarquable des gens et des autres. En tout cas, moi, elle me reconnaissait quand je venais. Voilà. Alors après, on va vers l'arrivée, les grandes vedettes. D'une part, il n'y a pas d'ancêtre commun où il remonte très haut. Il y a les gorilles, plusieurs types de gorilles. Mais le gorille aussi, sur le plan amoureux, il n'est pas très intéressant. Mais enfin, il a une vie aérienne. Mais il se tient très bien sur ses pieds. Il commence à se déplacer en faisant le gros dos et en balançant ses mains. Et puis, il y a d'un autre côté le bonobo et les chimpanzés. Avec les chimpanzés ordinaires... qui sont intéressants, mais assez violents, sauvages. Enfin, et puis, ces fameux bonobos qu'on appelle les chimpanzés Kamasutra, qui résolvent les problèmes de querelles au sein de la collectivité en faisant l'amour. Alors là, ils ont une inventivité qui est du niveau moyen d'un Don Juan de province.
Est-ce qu'il reste une singularité ? S'il y a une singularité entre... l'homme et l'animal, le siège n'a peut-être que le cerveau.
Bah, c'est évident.
Quelle est la singularité de l'homme dans ce...
L'homme, il va tout simplement... Alors, il y a les homos qui vont en plus se développer. L'étape pré-humaine, c'est l'homo erectus. Donc, certains appartiennent au genre homo. L'homo erectus, il a déjà un cerveau. Il y a une sorte de barrière du poids du cerveau. Il fait un peu moins de 1000 grammes, un peu moins de 900, et il marche. C'est lui qui va commencer à explorer le monde. Ils vont partir en Asie, etc. Ils vont peupler le monde. Mais très vite, il va y avoir une évolution et on va déboucher sur deux homos qui sont Homo sapiens et qui est sapiens néandertalis, c'est qui est un néandertal. Il y a un ancêtre commun entre le néandertalien et puis ensuite l'homo sapiens, mais sapiens sapiens qui est l'homme moderne, c'est Cro-Magnon, etc. Alors il a progressivement chez les néandertaliens, ils ont gardé les pattes assez basses, enfin les membres assez bas, ils sont robustes, ils ont une grosse carrure. Je les compare souvent à des piliers, à des talonneurs de rugby, parce qu'ils ont les épaules larges. Ils sont un peu cannibales, peut-être, mais les talonneurs de rugby, non. Donc, ils sont très bien. Ils ont leur cerveau fait 1,5 kg, c'est-à-dire qu'ils sont plus gros. Ils ont un plus gros cerveau que les sapiens. C'est paradoxal et c'est étonnant. Mais c'est des humains, quoi. Ils ont probablement le langage assez développé, et puis ils ont une petite tendance à la métaphysique. C'est eux qui enterrent leurs morts, avec des fleurs, avec des bijoux, etc. Donc c'est l'ère de l'homme qui commence. Alors après, il y a ce qu'on appelait le paléolithique et le paléolithique moyen, qui est la grande période où l'homme commence à avoir des états d'âme. Il peint... Et il sculpte, il dessine sur les murs. la part des femmes dans cette théorie a été extrêmement discutée. Mais il y a eu une époque, probablement, qui était une sorte d'âge d'or où il y avait une égalité absolue entre l'homme et la femme pour la prise des décisions, vous voyez, au niveau de la petite communauté d'hommes paléolithiques. C'était une sorte d'âge d'or, je crois. Moi, je fais le pari que c'était de ça que... si vous avez lu un peu le premier discours de Jean-Jacques Rousseau, il parle de cette époque des cabanes où l'homme était socialement très développé, avec un respect de l'autre, etc. Il y a eu cette époque où hommes et femmes, et, enfin mâles et femelles, étaient sur un pied d'égalité. Et il y avait la paix, si vous voulez. Ça s'est détérioré avec la propriété. C'est tout ce que les anarchistes veulent bien montrer. La propriété, c'est le vol. Mais c'est vrai qu'à l'époque
néolithique... Avec la sédentarité, alors.
Avec la sédentarité. Avant, c'était des cueilleurs-chasseurs qui se déplaçaient par bandes et qui installaient des sites de séjour, quelquefois plus ou moins prolongés, mais où ils s'organisaient, avec des coins pour l'abattage, des coins pour construire des huttes temporaires. Mais c'était bien. Moi, si on me demandait de choisir ma période préhistorique, je reviendrais au paléolithique moyen, quoi. Je serais sûrement un artiste.
Oui, en vous écoutant, ce qu'il y a de fabuleux qui laisse aussi un petit peu perplexe lorsqu'on parcourt votre livre... On découvre un cerveau qui est assez spécialisé, avec des aires qui sont dédiées à certaines fonctions. Mmh. On se rend compte qu'il y a un rôle extrêmement important de la chimie, jusque dans le goût, dans les affinités électives. Et en même temps, lorsque je vous entends parler, j'ai relevé quelques mots, libre arbitre, conscience, vertueux, intérêt pour une certaine forme de liberté, libertaire. Comment concilier à la fois... cette vision quasi mécanique, chimique, déterminée du cerveau, et ce recul par rapport à l'objet,
Votre objection est parfaite. Je veux dire qu'il faut savoir se limiter. J'ai fait ce portrait idéal de l'homme, mais en fait, son cerveau est d'abord... Il y a deux parties dans ce cerveau, si vous voulez. Vous pouvez opposer deux parties. D'une part, ce cortex, qui est le lieu où sont localisées ce qu'on appelle les facultés, la mémoire, les principaux comportements, ce qu'on appelle les facultés, c'est-à-dire la vision, l'odorat, l'audition, tout ça, c'est localisé sur des aires cérébrales. Sur la partie occipitale, la partie derrière, vous avez les aires visuelles. Vous avez les aires motrices, je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'homoncule, vous avez les aires sensorielles, le tact, la position, ce qu'on appelle la somatotopie, c'est-à-dire les localisations des fonctions, des muscles ou des récepteurs sensoriels qui vont au cerveau. Ensuite, devant, vous allez avoir des fonctions qui sont plus abstraites, c'est-à-dire que vous allez avoir dans le cortex préfrontal peut-être les aires qui vont gérer la conscience de soi. Parce que dans ce cortex préfrontal, il y a tout ce qui n'est pas une faculté évidente. On s'est rendu compte, c'est à propos d'une lésion, c'est toujours ça qui nous ramène à découvrir. C'est Phineas Cage était un employé des chemins de fer qui étaient en construction à l'époque, et il a reçu une barre à mine dans son cortex préfrontal qui ont détruit ce cortex préfrontal. Et il est sorti de son coma, on s'attendait à ce qu'il soit paralysé. Non, pas du tout. Il avait conservé une conscience et on s'est rendu compte que simplement c'était plus le même. Il était devenu un peu... voleur, ambleur, enfin, etc. On l'a un peu déconsidéré de façon un peu excessive, mais c'est vrai qu'il avait perdu un certain nombre de fonctions. La mémoire immédiate était très disparue, était très fugace. Et il lui manquait ce qu'on a après reconnu comme les fonctions du système frontal, des aires préfrontales plutôt, c'est-à-dire... la mémoire de travail, et puis je me dirais, pour simplifier, pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est d'une part ce cerveau qui va être le commissaire-priseur et le commissaire de police. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'il y a des inhibitions qui descendent du cerveau pour contrôler les mouvements que vous faites, pour les freiner, etc. Et puis, il y a aussi le commissaire-priseur qui dit c'est bon, c'est mauvais, etc. C'est donc quelque chose qui est de l'ordre du qualitatif, mais du qualitatif et du quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui fait l'homme. Alors notamment des neurones qui sont, qu'on appelle des neurones miroirs, c'est-à-dire que c'est des neurones qui s'activent lorsque vous faites un mouvement ou qui commandent les mouvements des mains, les mouvements de la bouche, tous les mouvements des muscles qui servent aux fonctions supérieures, comme parler, manger, etc. Tout ce qui permet la communication avec les mains, le bras et puis la langue et tout ça. Bon. Alors, ces neurones miroirs, qu'est-ce qu'ils font ? Quand, ça a été une découverte assez extraordinaire, qui était moyennement juste, mais quelquefois c'est des hypothèses fausses qui conduisent à la vérité. Quand l'interlocuteur est en face, un autre singe, et qu'il voit le singe qui est en face de lui faire ses gestes, bah lui il fait pareil, il imite. Il imite pas, il reproduit comme si c'était un miroir. Et vice-versa. C'est-à-dire que je sais que tu fais ça, parce que je le fais moi aussi. Donc, il y a une espèce de simulation de ce que fait l'autre et de ce que fait le comportement qui va donner, justement, l'idée que l'autre, c'est l'autre. Et que vous êtes vous. Donc, c'est la naissance de la conscience de soi.
Et de l'autre,
bien sûr. L'autre servant à définir le soi et le moi. Donc, qui sont des propriétés très développées chez l'homme. L'homme étant aussi l'animal qui imite le plus les autres. Donc, il y a cette fonction d'imitation. Il y a la théorie de la simulation qui fait que les mouvements que vous faites, ils sont simulés en même temps par le cerveau et qui peut permettre d'identifier. Alors, il y a le problème de la gentilité. Si je fais la même chose qu'en face, comment se fait-il que lui m'imite, lui comprend ce que je fais, mais moi, quand je limite lui m'imitant, pourquoi je ne fais pas à nouveau le geste, veut dire que c'est... Alors, il y a le problème de l'agentivité, il y a sûrement ce qu'on appelle une décharge corollaire. Justement, le cortex va à ce moment-là dire « Attention, c'est pas toi qui fais ça, tu ne fais que le reproduire dans ta tête, mais... » Il faut annuler l'effectivité de ce mouvement que tu as réalisé, mais uniquement en simulation. Voyez ? Donc il y a ce jeu de miroir qui est extraordinaire, parce que c'est ça qui va permettre la conscience de soi, le développement de l'humain.
Voyez. Mais aussi la compassion, si je comprends bien.
Alors c'est le siège, évidemment, de tout ce qui est compassion. Moi, j'ai écrit un livre sur la compassion, justement. C'est le fait que c'est la double pénétration, c'est-à-dire la pénétration réciproque, plutôt. C'est-à-dire, je suis à la place de l'autre, qui est à la place, donc, qui à la fois me comprend et que je comprends. Donc ça, c'est quelque chose de qualité humaine. On peut l'appeler empathie. Moi, je préfère l'appeler compassion parce que c'est un éprouvé partagé.
Et c'est là où on sort de quelque chose qui est d'allure purement mécanique pour déboucher sur quelque chose de plus, plus ineffable.
Mais bien sûr, voilà. C'est vrai. Alors j'ai parlé de ce cortex, mais dessous, il y a tout ce qu'on appelle les fonctions végétatives. La respiration... bien sûr, et puis après, il y a la thermorégulation, la reproduction, la soif, la faim, et tout ça va être commandé à partir d'une région centrale qui est sous le centre du cerveau, qu'on appelle l'hypothalamus, et puis des voies qui montent du tronc cérébral et qui vont réguler ces fonctions de base qui vont déterminer la vie, les fonctions végétatives, et qui sont très très importantes et qui vont être régulées à partir de cette base. Alors, tout ça se fait, je vous parle du cerveau comme s'il était tout seul dans sa tour d'ivoire. En réalité, le cerveau, il est branché sur l'ensemble du corps, et il est branché sur l'ensemble du corps qu'il va commander, en quelque sorte. Moi, c'est ce que j'appelle l'état central fluctuant. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un cerveau, qui est un lieu de synthèse, et notamment ces structures de base du cerveau, qui commandent les fonctions du corps, qui font commande au cerveau. Le cerveau va répondre à l'environnement et va donner une couleur aux objets qui sont dans l'environnement, une couleur ou un goût ou n'importe quoi. Il va donner du sens aux objets. Alors, ce sens qui est donné aux objets, il est donné par la base du cerveau qui va se projeter justement sur ce cortex préfrontal qui va reconnaître tel ou tel ou tel objet. Hein. Mais il y a un éprouvé du corps qui est essentiel et le cerveau, dans sa base et dans ses structures qui sont activatrices, qui sont les structures du désir, qui sont les structures de la souffrance, tout ce qui est de l'ordre de justement des, ce que j'ai appelé des passions, tout ça vient du corps. Et c'est ça qui va s'exprimer au niveau de cette région dans ce que j'appellerai l'âme. L'âme, c'est Épicure qui en donne la meilleure définition, l'âme, c'est le cri de la chair. C'est cette chair qui s'exprime dans le cerveau et va lui donner son sens et alimenter ce qu'on appellera le désir ou toutes ces choses-là qui font que nous sommes des êtres au monde qui souffrons, qui jouissons, qui désirons. Hein. Et ça, ça peut s'exprimer au niveau de ce qu'on appelle la psyché, ou l'âme, c'est le même mot en grec ou en latin. Hein. Et donc, quand vous me posez la question, mais où est l'âme ? Elle est là, elle est dans le cerveau. Il n'y a pas d'âme quand le cerveau est mort. On a essayé de mesurer s'il y avait eu une perte de poids, si l'âme était partie ailleurs, mais ça a été un échec. Et si l'âme, elle est ce qui exprime le corps et ses relations avec le monde, notamment avec ce qui constitue l'essentiel du monde, c'est-à-dire les autres. Il n'y a pas d'humain quand il n'y a pas un autre en sa présence, qui va lui apporter ce qu'il n'est pas capable de trouver tout seul, c'est-à-dire le langage. Si dans les premières années, l'enfant n'entend pas parler, il ne parlera jamais, parce qu'il y a des périodes critiques où le cerveau façonne l'âme du sujet.
En quelque sorte, vous êtes en guerre contre une vision qui réinstaurerait un dualisme au sein même de notre morphologie.
Absolument. Il y a une unité totale du cerveau. Et après, on va parler de la mémoire. La mémoire, c'est très important. Il y a différentes formes de mémoire. Mais c'est la mémoire qui va faire que ce cerveau, ça ne fonctionne jamais de façon... Bien sûr, on voit grâce à la... Il faut parler de l'imagerie cérébrale qui permet de voir certaines régions qui s'activent. Par exemple, quand vous parlez, vous voyez les aires de la parole qui s'activent hein, parce qu'il y a une oxygénation accrue au niveau des terminaisons, etc. Enfin, on voit, on a une sorte de photo d'intérieur de l'activité du cerveau. Mais on ne voit pas la pensée se produire parce qu'en fait, ces facultés qui s'expriment pour forme d'activité de neurones ne sont pas le résumé du fonctionnement du cerveau, où 95% de l'activité, de l'énergie des pensées est pour une énergie et pour un fonctionnement par déficit. Enfin, le nom m'échappe, mais le cerveau fonctionne tout le temps, en permanence. Mais on ne le voit pas. C'est un peu l'équivalent de la matière noire dans l'univers. C'est-à-dire qu'il est sûrement très important, il y a un haut niveau énergétique, mais c'est noir. Là, ça ne s'éclaire pas avec les systèmes de résidence magnétique nucléaire, etc. Alors là, il se passe des ondes, des choses qui font que le cerveau est toujours en état de fonctionnement. Et ces fonctionnements vont servir à amorcer les comportements, etc., etc. Le cerveau n'est jamais au repos. Ça, c'est très important. Il y a une activité par défaut qui fait que le cerveau fonctionne et fonctionne toujours. Et ça, c'est là que se loge probablement toute une série d'activités. Ce qui fait que, par exemple, vous n'êtes jamais véritablement conscient de ce que vous faites ou des choix que vous faites. Je dirais que la conscience...
C'est une idée extrêmement choquante, en fait.
Oui,
pour quelqu'un de tradition humaniste.
Bien sûr. Alors,
c'est difficile à entendre.
Quand vous choisissez de tourner à droite ou de tourner à gauche, la décision a été prise au moment où vous avez vos électrodes qui vont répondre dans des régions du cortex prémoteur.
Oui, c'est-à-dire que la décision précède la conscience de cette décision.
Absolument, voilà. C'est pour ça que je dis que la conscience n'existe que quand elle apparaît. C'est quand vous avez la sensation d'être conscient, c'est déjà fait.
Mais la courant, du libre-arbitre, dans ce cas.
Oui, la conscience est une apparition. C'est donc une illusion, vous comprenez?
Oui, c'est ce que vous écrivez, mais quid du libre-arbitre, quid même de la responsabilité, mais quid de toutes ces notions-là?
C'est un compromis permanent entre l'activité de votre cerveau. Quand vous voyez une image, elle est jamais... Elle est enregistrée par votre cerveau, mais quand vous allez l'évoquer, vous passerez par les mêmes airs, vous évoquerez l'image, cette belle image de la place qui est en face de nous et du fleuve, eh bien, vous ne vous rappellerez plus des détails. Mais vous aurez l'impression que vous êtes encore en face de l'image. Mais vous ne pourrez pas dire qu'en face, vous avez l'hôtel Meurice, etc. Alors que quand vous le regardez actuellement, vous pouvez nommer les choses que vous allez voir. Ça passe au travers de tout ce qui se passe dans le cerveau. Donc, grâce au ciel, ça permet aux mathématiciens de faire des découvertes, ça permet aux poètes de poétiser, et tout ça va être récupéré en partie par le cerveau droit, qui est le cerveau, je dirais, qui est au service de l'âme, alors que le cerveau gauche est au service des fonctions cognitives, vous voyez. Je calcule, je parle, je pense, logique, avec mon cerveau directeur, le cerveau le plus important, le grand chef du couple, mais c'est le cerveau gauche. Mais avec le cerveau droit, je rêve, je fais de la prosodie qui donne une forme au langage qui permet à la pensée de dépasser la valeur simple des mots. Vous voyez, on est dans la poésie du cortex. Alors quand vous les séparez, vous avez un hémisphère qui fait de la poésie, ou qui s'effraye si vous dessinez une maison qui flambe, vous allez la voir. Alors que si vous regardez cette région avec le cerveau gauche, quand vous l'avez séparé, vous avez donc séparé la vision droite et la vision gauche, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion ne sera pas perçu. Alors vous avez aussi des troubles de la perception qui sont liés à des lésions du cerveau. Vous allez voir la somatognosie et l'hémiastomatognosie, où vous ne voyez pas la moitié de votre champ visuel. Si vous regardez, j'ai pris l'exemple de la cathédrale de Milan, si vous mettez en face, vous avez un côté qui a disparu à l'autre. Le côté, en général, c'est la droite et la gauche. Mais si vous tournez en sens inverse, ce sera inversé. Vous avez changé le côté gauche, c'est le côté qui permet de faire la différence entre la gauche et la droite. Et puis après, vous pouvez faire tourner une pièce dans l'espace, eh bien, ça prend un certain temps. Ça veut dire que les opérations du cerveau, ça prend du temps. C'est pas immédiat. C'est pas le cerveau qui comprend tout. Il faut réfléchir, et la réflexion, elle passe par des images mentales. Alors l'image mentale, elle est essentielle dans le fonctionnement du cerveau.
Alors, avec cette description du fonctionnement du cerveau droit, du cerveau gauche, j'ai envie de redéboucher sur ce débat ou ces questions très actuelles d'intelligence artificielle. On a vu que dans les semaines précédentes, c'était beaucoup médiatisé, la victoire successive d'un ordinateur au jeu de Go
oui.
Contre le champion mondial humain du jeu de Go. Que vous inspirent ces événements C'est de l'ordre du marketing? C'est intéressant pour vos recherches ou pas?
C'est intéressant à condition de faire le joueur de Go toutes les fonctions de ce qu'on lui aura appris. Hein. Donc on alimente l'intelligence, elle n'est pas si artificielle que ça. Donc après, comme il a une vitesse de calcul extraordinaire, il peut faire ce que ne fera pas un cerveau humain, parce que le cerveau humain, il doit quand même réfléchir, il doit mettre en branle ses neurones et tout ça. Il a beau être très malin, connaître beaucoup de positions, de trucs pour gagner le match. Mais en réalité, la vitesse de calcul est très très importante, et la puissance des ordinateurs permet de résoudre un certain nombre d'algorithmes ou de calculs qui vont arriver aux résultats plus précis et qui feront gagner le sujet. Mais ça, il y a des progrès incessants qui ne sont pas des progrès de l'intelligence artificielle, c'est des progrès de l'ordinateur, du calcul.
Oui, on est dans la puissance de calcul.
La puissance de calcul. Alors quand on pense que peut-être on aura bientôt des ordinateurs quantiques, ça voudra dire qu'on va abattre le mur entre le monde quantique et le monde nano, enfin le monde qui est un modèle réduit de monde, mais qui est dans des dimensions submétriques, mais de toute façon dans des dimensions. Alors que là, avec le monde quantique, c'est un monde qui n'est pas appréhendable par des logiques qui peuvent servir pour mesurer, compter, etc. C'est autre chose, le monde quantique. Mais on peut l'exposer. Moi, je ne comprends pas très bien comment ça marche en ordinateur quantique, parce que je ne comprends pas très bien la théorie quantique. Mais parce que ce n'est pas...
C'est un changement de nature, c'est pas...
On est ailleurs, on est dans un autre monde, de dimension.
Il y a quelques mois, nous recevions ici un écrivain, récemment élu à l'Académie française, André Imakine, qui s'inquiétait de voir la place de l'homme, en quelque sorte, grignotée, aussi bien par l'effacement de la frontière avec le monde animal, et aussi par l'effacement progressif de la frontière avec la machine et l'ordinateur. Il s'inquiétait du développement des pensées qui tournent autour du transhumanisme, qui commencent à prêter la capacité...
Oui, j'ai travaillé là-dessus.
Qu'en pensez-vous ? En tant que spécialiste du cerveau, est-ce qu'on est dans une sorte de délire, d'utopie ?
Bien sûr que non. Il faut pas freiner les technologies. Il faut pas avoir peur. Google, probablement, n'a pas une puissance illimitée. Ils se piègent eux-mêmes. Il arrivera un moment où Google arrivera dans un mur qui ne pourra pas dépasser. De toute façon, on va s'en tirer. Et il suffit de chercher les bons médias et on va, la vie va continuer. Je ne suis pas pessimiste, mais les Converging Technologies nous permettent, justement, en mettant ensemble les nanotechnologies, les technologies d'information, tout ça permet peut-être de donner des armes à la raison pour qu'elle puisse tempérer les délires et les désordres liés à des calculs qui auront été mal digérés, quoi. De toute façon, les algorithmes prennent le pouvoir avec les big data et tout ça. Il faut pas se laisser faire, quoi. Il faut les tenir en respect, parce que l'humain est fragile, de toute façon, tant qu'on n'a pas vaincu la mort. Est-ce que ça vaut la peine de travailler à ça? Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est reculer les frontières de la vieillesse. Ça, il y en a qui s'en chargent, que les gens comme Radman, tout ça, ont des idées pour prolonger un peu la vie, et la vie en bonne santé. Hein, c'est ça qui est le paradigme nécessaire.
La finitude ne fait pas partie de la condition humaine, vous pensez ?
Non, je crois que c'est la mort, oui, qui fait... C'est ça, oui, la mort fait partie de la condition humaine. Est-ce que des hommes immortels seront encore des hommes ? Ça, c'est une autre affaire. Mais je crois que là, c'est une impasse totale. On n'y arrivera pas. Je crois pas. Mais ce qui est possible, c'est que l'espèce humaine disparaisse. Il y a tellement de conneries qui peuvent se passer. On a tellement de moyens de se détruire qu'il faut faire attention. Actuellement, dans la situation confuse qui est la nôtre, avec cette cruauté délirante qui est aux mains d'un certain nombre de gens, Daesh et compagnie. Moi, j'ai relu Burroy, on est exactement dans la même condition. Il faut faire attention à votre gidouille ou à votre pantoufle verte. Mais c'est parce qu'on est dans le domaine de l'absurde, on est dans un domaine où l'homme se détruit.
Pour un spécialiste du cerveau humain, de son fonctionnement, ce type de comportement, la façon dont ils se répandent, façon dont un certain nombre d'inhibitions disparaissent, mais aussi socialement, c'est-à-dire qui se répandent dans la société. Comment l'expliquez-vous ? Quel est le regard du chercheur sur ce type de phénomène ?
Ce type de phénomène, il peut complètement paralyser votre pensée. Et la rendre inappropriée et inutile. Je crois que le seul moyen dont nous disposons, alors moi je n'ai pas un esprit religieux, je suis au contraire, quand je vois les dégâts que peut provoquer la religion, c'est-à-dire les croyances qui ne sont pas fondées, les mystifications de l'être qui sont le propre de la religion, Mais ce qui est vrai, c'est l'amour, quoi. C'est ce sentiment absolument ineffable qui rapproche les humains les uns des autres. Ce que j'appelle, moi, c'est un peu, ça fait un peu sa religion, son religieux, mais ce que j'appelle la communion des saints, c'est chair à Bernanos, qui peut être quelque chose de parfaitement laïque, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de se transcender par l'autre. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de respecter une certaine dignité qui fait appel à l'autre. Si vous êtes privé de l'autre, vous n'irez pas loin. Et il faut craindre que les nouvelles technologies, qui vous donnent des capacités extraordinaires au niveau du calcul et autres nanotechnologies, graphène, tous ces trucs qui vont presque plus vite que la lumière quand elles servent dans des puces ou autre transistor, ça ne peut être combattu qu'au nom de l'affect, c'est-à-dire au nom de l'amour, c'est-à-dire aussi ce qui sépare ce cerveau quand il a des schémas mentaux qu'il produit, des images, des choses comme ça, mais comment ça devient un phénomène de conscience, comment ça passe, ce qu'on appelle les qualia. D'où ça vient? C'est pas immatériel. Ça se promène pas dans les airs comme l'âme immortelle et de Descartes sans étendue, diduré. Non, c'est comme ça. On n'a pas encore intégré ce rapport philosophique entre ce que produit le cerveau et ce qui existe à un niveau de perception de ce que produit le cerveau. Les forces du langage, toutes ces choses-là, ne peuvent pas être remplacées pour cet instant. Mais il est évident qu'avec des algorithmes, les fameux algorithmes qui vont pour résoudre toute cette statistique de l'improbabilité, The Uncertain Nervous System, il y avait un livre qui s'appelait comme ça. Il fonctionne par probabilité. Heureusement, oui. Alors, donc, il faut faire confiance à nos qualités poétiques, à notre capacité d'aimer. Je crois que c'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes, il faut leur apprendre à aimer. Je vais parler comme un curé bientôt, mais c'est mon côté protestant et anarchiste. Mais
oui, c'est ce
vrai,
que je voulais dire.
J'y peux rien. Je veux dire que si on veut pas mourir de désespoir, il faut préparer sa mort, quoi. Il faut préparer sa mort, c'est... en ayant recours aux autres, quoi. Je plains celui qui meurt seul sur une île déserte. Il lui restera la mémoire des autres qu'il a connus autrefois. Il lui restera peut-être des romans à écrire. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la présence effective et affective de l'autre. C'est comme ça. Nous avons besoin de l'autre. Si nous n'avons pas cet autre, bien, nous ne serons jamais un humain. C'est ce qui paie. Du côté de comment ils peuvent se tuer, c'est parce qu'ils n'ont pas de conscience de soi. Ces types qui se font sauter, c'est incompréhensible pour un cerveau normal. Et puis cette violence, cette capacité à égorger les gens, etc., c'est épouvantable. Ça dépasse notre imaginaire. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ça. C'est vraiment le bazar, le grand bazar. Alors du coup, il y a la peur qui est un argument pour gouverner les autres, abuser d'eux. C'est un instrument, la peur, c'est l'instrument de la prise sur l'autre, quoi. La cruauté, la peur, tout ça, c'est avec ça qu'on gouverne.
Oui, nous sommes partis d'une exploration du cerveau, des différentes aires et de sa spécialisation. Des influx électriques qui peuvent le traverser à travers les nerfs, de la chimie, et on en arrive à Bernanos, peut-être un petit peu Lévinas aussi.
Oui, oui, Bernanos.
J'ai
laissé tomber une ville, Bernanos, mais peut-être j'y reviendrai, parce que c'est quand même déjà.
La France contre les robots.
Entre autres. Un drôle de type, Bernanos. Mais enfin, bon. Bienheureux et simple d'esprit, mais bon, on ne peut pas vivre rien qu'avec des simples d'esprit. On a des besoins de penser, besoin de rire, besoin d'aimer. Donc il ne faut pas se décourager. Il faut jouir le plus possible. Voilà.
aussi.
Si, même si c'est un peu trivial. Voilà.
Nous voici donc avec, comme conclusion, deux conseils de lecture. Le cerveau expliqué à mon petit-fils par Jean-Didier Vincent, de façon à comprendre cette terre de moins en moins connue, mais enfin qui nous laisse quand même devant des abîmes de réflexion. Et tant mieux d'ailleurs, car si nous pouvions cerner ce cerveau de façon définitive et comprendre son fonctionnement, ce serait probablement encore plus terrifiant. Donc, tant mieux. Il reste une terre inconnue dans de larges proportions. Et donc, on peut compléter cet ouvrage. Le cerveau expliqué à mon petit-fils par Jean-Didier Vincent aux éditions du Seuil, en se plongeant aussi dans la philosophie qui a donc sa part dans la compréhension de l'être humain.
J'ai écrit une biologie du couple. C'était un peu par vengeance parce que je venais de divorcer, mais quand même, on y trouve des informations qui ne sont pas négligeables. C'est un livre qui est sorti l'année dernière. Biologie du couple. Vous vous rendez compte? Quelle affaire, le couple? Enfin, bon, on y arrive quelquefois.
Une terre inconnue, celle-ci aussi. Ou en tout cas, qui se dérobe sous les pieds.
C'est un peu difficile. Mais à partir de certain âge, c'est la tendresse qui compte. Vraiment, la tendresse et l'amour. Rien n'est plus beau qu'un couple de vieux. Je dis ça, c'est les vieux amants. C'est rien de plus beau. Ils savent qu'ils mourront un jour très proche, quelquefois, ça dure, les vieux amants. Et c'est quand même très bien, les jeunes amants. La fidélité ne réapparaît qu'à partir d'un certain âge. Sinon, le couple est fragile. Voilà.
Écoutez, je ne sais pas si je dois être terrifié par ce que vous dites ou être simplement impatient.
Non, attendez.
Voilà.
Attendez. Vous verrez, c'est formidable l'amour quand il vieillit.
Bon. Merci beaucoup, Jean-Didier Vincent. Merci pour cette exploration du cerveau, du couple et des arcanes du cerveau et de l'âme humaine. Voilà. Mais oui, mais parce que c'était intéressant. Merci encore.
C'est moi qui vous remercie. Thank you.